Puis maintenant, on a une génération qui dit « Hey, moi, on veut une planète dans 50 ans. » Là, c'est beau, là, mais nous, on veut un futur. Puis c'est une génération qui n'est pas juste axée sur son futur, qui est en relation avec l'écologie, avec la nature.
Ce balado est présenté par la Société de services financiers Fonds FMOQ, qui vous rappelle que vivre en santé, ça commence maintenant. Dans ce nouvel épisode de ce balado en collaboration avec la Faculté de médecine de l'Université Laval, Santé sans rendez-vous. Aujourd'hui, planète et santé, un sujet qui m'a fascinée, un sujet qu'au départ, j'arrivais pas nécessairement à bien saisir, mais plus on en lit, plus on réalise l'impact justement de ce sujet-là. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai en ma compagnie Mélanie Lemire, qui est professeure agrégée au département de médecine sociale et préventive de la Faculté de médecine de l'Université Laval, chercheuse à l'axe santé des populations et pratique optimale en santé du sang. Centre de recherche du CHU de Québec et à l'Institut de biologie intégrative et des systèmes à l'Université Laval. Elle est également titulaire de la chaire de recherche littorale. Je reprends mon souffle. Mélanie, bonjour!
C'est bien trop long, hein?
Mais non, mais ce sont de très beaux titres et bien, j'aime ça voir à quel point justement nos invités sont remplis de bagages, sont remplis vraiment de contenu pour le balado aujourd'hui. Et à ma gauche, Isabelle Goupil-Sormani. Elle est médecin, professeure adjointe, département de médecine sociale et préventive de la Faculté de médecine de l'Université Laval, médecin conseil en évaluation et soutien à la gestion des risques environnementaux à l'Institut national de santé publique du Québec. Isabelle, bienvenue.
Bonsoir.
Après toute cette nomenclature, mesdames, je suis curieuse de vous entendre sur le sujet aujourd'hui d'abord, puis après ça, on va s'en aller vers les raisons pour lesquelles vous avez choisi de vous spécialiser justement là-dedans. La médecine sociale et préventive, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pratiquez en clinique? Est-ce que vous aidez la santé publique? Comment ça fonctionne? C'est quoi ça?
Bien, en fait, la médecine sociale et préventive, c'est le nom du département, mais ça veut s'intégrer dans la santé des populations, la santé publique. On pourrait même parler de la santé communautaire. C'est tous des courants d'intervention là, qui traitent les populations. Donc, au lieu d'être dans une médecine individuelle, on est vraiment en partenariat avec toutes sortes de professionnels pour traiter, mais surtout prévenir la maladie dans des sous-groupes, dans des populations, ça peut être à différentes échelles, quartier, ville, planète.
OK, c'est ça, une population, c'est ça que je me demandais.
Ouais, c'est quoi, beaucoup de monde.
Okay, c'est beaucoup de monde. Puis ça peut aller à petite échelle ou à plus grande échelle.
Oui, voilà,
okay.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qui vous a poussé, Isabelle, à vous diriger vers cette expertise-là?
Hey, moi, je voulais changer le monde.
Okay.
Oh. Pas sûr j'ai réussi, là, mais il y avait
mais
cette espèce d'ambition.
Rêves, ben oui.
Ben, j'ai fait beaucoup de médecine clinique, j'ai fait de l'urgence, puis à un moment donné, c'est un peu répétitif, puis à un moment donné, tu as envie de travailler en amont, comme avant que ça arrive.
Oui.
Fait que moi, j'avais l'appel de l'action en amont. Puis, je travaillais sur la contamination par les alumineries au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que voilà, c'est comme ça que je me suis intéressée à la santé publique.
Et Mélanie, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette tangente-là?
Moi, je suis arrivée par une autre porte. Je suis formée comme biologiste, comme microbiologiste.
Oui.
Puis j'ai fait une maîtrise en santé des populations, en santé environnementale, en Amazonie brésilienne, à l'interface de l'environnement et de la santé humaine. Puis j'ai toujours trippé sur le poisson. Donc, depuis ces années-là, je travaille sur les contaminants dans les aliments de la mer, mais aussi tous les bons côtés de l'alimentation marine. Donc, je suis vraiment à l'interface entre plus la biologie, même l'océanographie, puis la santé humaine.
Et justement, quand je lisais sur le sujet, qui tantôt, je l'ai dit, là, me fascinait parce que je n'étais pas sûre de bien saisir planète et santé, puis j'essayais de voir c'était quoi, je savais qu'il y avait un lien, mais le concret de la chose dans nos vies à nous en tant que personnes individuelles, puis dans la nourriture notamment, c'est là que j'ai pogné un 2 minutes, là, permettez-moi l'expression, mais de voir à quel point certains aliments peuvent être contaminés par d'autres et se retrouver finalement dans notre assiette, moi c'est quelque chose qui m'a frappé en fait, je savais pas à quel point il y avait autant justement de contaminants.
Il y a plein de belles choses aussi. Il ne faut pas juste s'accrocher sur les contaminants, mais les aliments sont un lien étroit avec notre environnement.
Oui.
Ça peut être un environnement très distant, par les biens de consommation qu'on importe, les aliments qu'on importe, oui. ou bien l'environnement local. Moi, dans le cadre de mes projets, je travaille étroitement avec des communautés autochtones qui connaissent vraiment bien leur environnement, mais aussi que leur environnement, c'est leur lien avec leur culture, avec leur alimentation. Donc, l'alimentation, c'est comme un lien entre l'environnement puis la santé. Mm-hmm. Donc, si ton environnement n'est pas en santé ou la faune qui y habite n'est pas oui. en santé, bien, les populations qui les consomment, par conséquent, vont s'exposer à certains contaminants qui peuvent être présents dans la faune. Mais d'un autre côté, c'est un système complexe parce que si tu ne manges pas ces six bons aliments-là qui ouais. viennent du territoire, qu'est-ce que tu manges à la place? Puis de la pizza en boîte avec d'autres contaminants qui viennent de la boîte ou du processus de transformation, bien, c'est pas mieux. Fait que souvent, on jongle entre ces différents aspects-là.
Et jusqu'à quel point on a besoin de la nature pour être en santé?
Bien, sans notre planète, on n'est rien. C'est l'air qu'on respire, c'est l'eau qu'on boit, c'est les aliments qu'on mange, c'est les relations sociales qu'on entretient. Sans planète, on n'est rien.
Mais si la planète n'est pas en santé, c'est là qu'on voit
moi, j'aimerais ça nuancer. L'enjeu. Ouais. J'aimerais ça nuancer parce que la planète, au départ, elle est un peu hostile à la vie humaine, là, mm-hmm. dans le sens que quand la pluie tombe sur la tête, quand le vent te souffle, quand la neige te refroidit l'hiver, t'es pas super. Donc, il y a une réponse adaptative. T'sais, on s'est bâti des environnements pour s'adapter à une planète, au départ, pas facile.
Non.
Mais on est comme allé trop loin. Cette adaptation, elle a comme été... Elle s'est imprégnée d'une culture, d'une économie. Puis là, on a trop fait, puis on a dépassé à plusieurs niveaux ce qu'on appelle les ressources naturelles, mm-hmm. mais aussi ce dont on a réellement besoin. Puis là, ça fait gourou du dimanche, mais c'est comme si on avait trop poussé. Puis là, il faut comme reculer. Ouais. Il faut comme juste retrouver un équilibre. Puis comme le dit Mélanie, la planète, elle est aussi bonne. Elle nous nourrit. Elle nous fait vivre. Puis il faut trouver l'équilibre. Là, je vais aller vers les changements climatiques, mais il y a une douce vengeance. Parce que là, cette fois-ci, nos excès engendrent encore plus d'intempéries puis encore plus de risques à la santé. Fait qu'il faut comme reculer. Il faut retrouver cet équilibre-là. Oui, il faut se protéger des intempéries, oui. des menaces environnementales, mais sans en créer d'autres.
C'est quoi les menaces environnementales? Parce que moi, là, c'est vraiment en me faisant énumérer ces différentes menaces-là que j'ai vraiment compris à quel point notre vie peut être affectée si, justement, on ne fait pas attention ou si on... En tout cas, peu importe, là, dépendamment de nos actions. Les changements climatiques, je pense que c'est la grosse menace, puis j'aimerais vous entendre là-dessus.
Ah, Joannie, est-ce que je peux me permettre juste d'expliquer des fois les changements climatiques? C'est tellement abstrait que les oui. gens ne savent pas ce que c'est.
Mais
est-ce
tellement.
Que juste... ben, en fait,
parce première... que moi, je sais peut-être même pas ce que c'est moi-même. Là.
Ben, je vais les simplifier parce oui. qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux, mais oui. grosso modo, on a produit ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, on parle souvent du CO2, là, du dioxyde de carbone, tout ça, mais il y en a plein de gaz à effet de serre. Puis c'est souvent lié aux énergies fossiles. Fait qu'on a envoyé plus de ces gaz-là dans l'atmosphère. On avait besoin au départ parce que l'effet de serre, c'est ce qui fait que la planète est chaude. C'est, encore là, c'est un bon phénomène. Mais là, on a relargué plus de gaz que nécessaire. Et là, ça fait plus de monde à la messe. Moi, je dis ça, il y a plus de monde dans l'atmosphère. Mm-hmm. Fait qu'il y a deux choses. Plus d'effet de serre, donc plus de chaleur, plus de rétention de chaleur. C'est ça quand on parle des degrés, l'augmentation de la température oui. de la Terre. Mais aussi, il y a plus de monde à la messe. Hein. Il y a plus de gaz, de particules dans l'atmosphère qui sont gardées prisonniers de l'atmosphère. Et ça fait aussi plus d'instabilité. Donc, il va pleuvoir plus abondamment, venter plus fort. Donc, il y a de l'instabilité en plus d'avoir de la chaleur. Puis ces gaz-là, bien, ils ne sont pas neutres. Okay? Le CO2, si vous en mettez dans votre eau, elle va devenir un petit peu plus acide. Et donc, ce CO2-là peut être recapté par les océans puis créer de l'acidité dans les océans. Donc, ça vient aussi bousculer les écosystèmes surtout de l'eau, là, oui. mais ça vient déranger tout cet écosystème-là. On parle de l'acidification, la perte des coraux, on parle... Et donc, tout ça est une série de systèmes qui peuvent s'emballer. Et c'est ça le défi, parce que si ça s'emballe, par exemple, le pergélisol, ça peut libérer aussi des gaz, et donc ça peut augmenter le réchauffement climatique. Et donc là, la fonte des glaces augmente, fait monter les eaux. Donc c'est toute une série de phénomènes qui s'emballent dû au fait qu'on a émis trop de gaz à effet de serre. Mm-hmm. Puis le CO2, là, ça prend, bien, ça dépend des études, là, j'ai cherché ça récemment, mais tu sais, ça peut prendre de 50 à 125 ans avant de se dégrader. Fait qu'on a pour longtemps.
Oui.
OK? Ce qui a été émis en 1880, on vient de commencer à l'éliminer. Fait qu'on en a pour très, très longtemps. Donc, la question, c'est comment on freine ça?
Bien, selon ce que je fais, je peux vous parler un petit peu plus de ce qui se passe dans le Nord, oui. En Arctique. Nos communautés autochtones dans le Nord sont au premier plan des changements, qui sont vraiment rapides, de par leur connexion avec l'environnement, par exemple. Avec les changements climatiques, les conditions de glace sont moins sécuritaires. Donc, si tu pars en skidoo sur le territoire pour aller à la chasse, par exemple, puis que ton skidoo et ta personne s'enlisent dans l'eau, ta santé est mise en péril. Oui. Ça, c'est un exemple à court terme. Mais aussi, la fonte du pergélisol amène des dommages aux infrastructures, amène aussi des espèces invasives. Puis même la fonte du pergélisol peut contribuer au relargage de différents contaminants qui sont accumulés au fil des années dans le pergélisol, eux, qui vont se relarguer dans l'environnement. Donc, il faut vraiment avoir une vision globale d'un système. On pourrait parler de déforestation ou même d'augmentation des précipitations. Tout ça, c'est souvent étroitement lié, là. Donc, on ne peut pas facilement les détricoter.
Isabelle, je m'adresse à toi pour la prochaine question. Dans ce qui a trait aux différentes menaces et les impacts qu'on peut avoir sur la santé à l'échelle canadienne, qu'est-ce qui est à surveiller, qu'on ne surveillait peut-être pas nécessairement dans les dernières années ou décennies, là?
En lien avec les changements climatiques,
oui,
je pense,
hein, Janine.
Première des choses, c'est qu'il va faire plus chaud. Donc, parce qu'il fait plus chaud, il va faire plus chaud l'été. J'expliquais tantôt qu'on va avoir il y a plus de molécules dans l'atmosphère, donc plus de précipitations abondantes. Donc, s'il fait plus chaud, bien, les gens qui sont cardiaques vont être très, très affectés par la chaleur. Donc, plus d'insuffisance cardiaque, plus de risques d'hospitalisation et de décès liés à la chaleur. J'ai parlé des cardiaques, mais il y en a aussi pour d'autres maladies, d'autres problèmes de santé. On a aussi des risques d'incendie, de feux de forêt. Donc là, on parle de qualité de l'air. Donc encore là, des problèmes de mortalité cardio-respiratoire, parce que quand il y a de la pollution, les gens ont plus de difficultés à respirer, les échanges se font moins bien, donc c'est plus difficile pour le cœur et pour les poumons. Donc là, on a plus d'insuffisance respiratoire, plus d'hospitalisation pour de l'asthme, plus de maladies pulmonaires, oui. Okay? Et cardiaques. On parle aussi, il fait plus chaud, donc la saison des baleines va commencer plus tôt et va durer plus longtemps. Et donc là, encore là, pour ceux qui sont allergiques, on a déjà 10 à 15 % de la population qui est allergique, mais eux, la saison d'allergie va durer beaucoup plus longtemps. Les feuillus remplacent les conifères, mais les feuillus, c'est des allergènes pour bien des gens. Donc, on aime ça. C'est bon pour notre santé mentale, mais en contrepartie, il y a des risques d'allergie. On parle aussi, il y a certaines formes de vulnérabilité comme des grandes inondations. On l'a vu en Colombie-Britannique. Ça, c'est des risques de traumatisme. C'est aussi, ça désintègre le tissu social. Hein. Quand tout le monde est évacué, quand les rues sont coupées, bien là, on a des risques à la fois dans l'accès aux ressources, dans l'isolement, dans les traumatismes, dans la santé mentale.
Donc, financière ça, aussi, j'imagine.
Oui, mais il y a des programmes, il y a quand même des programmes qui sont largement insuffisants, mais oui, c'est un stress immense. Donc là, tu sais, puis il y a plein d'impacts qu'on sous-estime encore. On parle de maladies de Lyme, les maladies infectieuses, plus de, tu sais, l'eau va être de moins bonne qualité, plus de bactéries. Il y a aussi, tu sais, tous les services écologiques que nous rend la nature. On commence à peine à comprendre les effets puis les bénéfices écologiques de la nature. Mais à partir du moment où on la chamboule avec les changements climatiques, on n'a pas encore mesuré les impacts. On parle de perte de milieu humide, mais ça, c'est l'eau. C'est notre eau de qualité là, auquel on peut être affecté. Puis là, je vois que Mélanie allume sur quelque chose. C'est que je vais y passer le relais.
Je dirais aussi qu'on est les grands privilégiés de cette planète, même si il y a des risques accrus avec les changements climatiques. Il faut penser à toutes les populations qui habitent à l'Équateur, où il va y avoir des méga sécheresses, des enjeux de famine. Là. Donc, on va avoir un devoir de solidarité avec les pays qui vont souffrir davantage des changements climatiques.
C'est la planète se réchauffe, mais elle va s'assécher, sauf au Québec. On le dit, là, c'est dans les prévisions d'Uranus. Le seul endroit où il va pleuvoir, là, mais en même temps, on ne restera pas hermétique. Hein? Les plus grandes migrations sont dues au climat, puis les gens vont quitter leur pays où ça n'a pas de bon sens, puis ils vont migrer. Fait qu'on va avoir... Puis c'est une bonne chose, la migration, là, mais ça va créer de l'instabilité humaine aussi, culturelle, politique. Donc, il faut se préparer, puis toute cette instabilité-là est source d'anxiété aussi pour tout le monde. Donc, trouvons des solutions dès maintenant parce qu'on ne pourra pas éviter les changements climatiques, mais on va au moins pouvoir s'équiper pour y faire face. notamment par la résilience des communautés, notamment, ben, tu sais, si on parlait des énergies fossiles, oui, on peut avoir de la contamination de l'air par les feux de forêt, puis par les pollens, mais si on a réduit la contamination due aux produits chimiques, ben, on fait un gain aussi en parallèle, là. Donc, tout n'est, tu sais, on a des solutions possibles.
Et quelles sont les solutions, justement?
Bien, ça prend plein d'experts de plein de domaines qui travaillent ensemble. Et on a besoin de relève. On a besoin de chacun d'entre vous pour travailler ensemble, pour porter l'information au grand public, pour poser des gestes, puis pour inviter nos décideurs à poser des gestes conséquents.
Est-ce que les actions individuelles, jusqu'à quel point les actions individuelles, que moi, je suis à la maison, dans ma maison, je décide de faire telle action pour mon environnement, on dirait que des fois, j'ai entendu des gens dans d'autres médias, ou en tout cas, peu importe, dire « ça sert à rien, ça. Ces petits gestes-là, ils servent à rien. Il faut que ce soit des gros gestes. » Ou à l'inverse, peut-être que c'est les petits gestes individuels, finalement, qui vont faire la différence. Je ne sais pas. Tu sais, chez nous, mon recyclé, ça vaut-tu la peine? Dans mon quotidien, à moi, là, ce que je fais, ça a-tu un impact? À part dans ma tête.
Ouais. Moi, je peux te prendre un exemple. Moi, je suis plutôt d'avis que ça prend des gestes structurants. Exemple.
Donc, des gestes collectifs.
Exact, parce que le plus bel exemple que je pourrais avoir, c'est important de manger mieux. Donc, tu vas manger des fruits, des carottes, tu vas cultiver ton jardin. Mais au final, si ton environnement ne te permet pas d'aller acheter des fruits facilement à un prix abordable, ce qu'on appelle les environnements favorables, tu ne pourras pas manger plus de fruits. Donc, ça prend des mesures structurantes, des environnements favorables à la santé de notre planète. On peut poser des gestes, mais je pense que il faut travailler ensemble à un niveau beaucoup plus structurant si on veut que les choses changent. Ça évite, c'est sûr que les petits gestes sont importants pour la sensibilisation, pour contribuer à ce qu'on peut faire. Mais d'après moi, ça prend des mesures un petit peu plus drastiques.
Le message est clair.
Les écologistes souvent parlent de faire sa juste part. Je pense qu'il faut faire notre part, mais la juste part, c'est vraiment les gouvernements et les grands, tu sais, c'est les grandes institutions, c'est les grands. Tu sais, nous, notre défi au Canada, c'est le transport, principalement, mais c'est pas ton auto électrique qui va faire une différence.
Non.
Tu sais, je dis ton auto, là, je parle à n'importe qui, là, mais je veux dire, c'est pas ça qui fait la différence. Le transport, c'est des immenses chaînes. Ça part de la Chine jusqu'au Québec, ça passe par le port de Québec. Je veux dire, c'est tout un régime structurant qu'il faut repenser. Puis c'est encore là, c'est notre rapport économique, notre rapport à la culture, notre rapport... Tu sais, il faut avoir une vision globale, mais ça n'empêche pas qu'il fasse aussi faire notre juste part. Oui. Mais notre juste part, c'est peut-être consommer moins aussi, c'est peut-être revoir nos façons de consommer, c'est faire plus de cuisine, moins... Tu sais, il y a des éléments personnels à faire, moins d'aliments transformés, comme disait Mélanie tantôt, là, je reprends sans... Mais il faut faire notre juste part, mais il faut aussi qu'il y ait des actions à plus grande échelle. Puis c'est un peu paradoxal parce que tu as des grandes, grandes décisions structurantes qui sont prises, tu sais, avec l'ONU. Puis après ça, pouf, il y a un gros gap. Puis là, on arrive plus à l'échelle des villes. Les villes, il y a des pistes d'action très, très inspirantes au niveau des municipalités dans le monde. Là, tu sais, on peut s'inspirer à faire mieux. Là. On peut aller chercher des beaux modèles. Puis là, il faut se mettre en action. Puis à l'échelle locale, allez, mais je pense qu'il faut que la politique suive aussi. On n'aura pas le choix.
Si on reste dans les populations, parce que, Isabelle, c'est un peu ton créneau, là, si on prend, exemple, une ville avec ses quartiers, avec ses arrondissements et tout ça, il y a des quartiers un petit peu moins bien nantis ou du moins plus vulnérables côté connaissance, côté accès à de l'alimentation de qualité. Comment on arrive? Ben comment? Je pense pas qu'on y arrive là en ce moment, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'équilibrer tout ça? Parce que c'est ça que dont vous parliez tout à l'heure, il faut essayer de trouver un équilibre là-dedans. C'est sûr que ces quartiers-là, ces gens-là ont plus tendance, j'imagine, à avoir une moins bonne santé que des gens qui habitent plus dans le nord, plus dans la nature de cette même ville-là, je me trompe-tu?
Bien, ça dépend de l'échelle, hein. Les inégalités, c'est à petite échelle, puis c'est à moyenne échelle, c'est à grande échelle. Mais, tu sais, Mélanie, elle passe son temps à vivre, tu sais, à voir et à témoigner de ces inégalités-là entre le nord et le sud, là. Fait qu'il faut s'entendre sur c'est quoi le nord, là.
Non,
et puis on pourrait parler des nords et des suds, là, parce que je pense qu'il y a une grande diversité. Je vais essayer d'être simple. Quand on part, tu sais, moi, je dis souvent dans la vie, on a un sac à dos. Okay. Puis il y en a qui partent avec un sac à dos qui est vraiment lourd, fait qu'ils vont avancer moins vite. Mais c'est comme si le fait d'avoir ce sac à dos sur le dos-là fait qu'en plus, on donne un chemin plus difficile. Puis il y a comme des il y a comme une série d'embûches, puis parce que tu as le sac à dos, puis parce que tu n'es pas vite, on va te discriminer davantage. Puis là, ça entraîne des cercles vicieux, puis qui sont stressants, puis qui nuisent à la santé. Puis si on prend le... Tu sais, donc les gens, ils vont en général être plus malades, plus de problèmes de santé, moins accès aux services de santé, plus, tu sais, moins accès non, aussi aux ressources. T'sais, on parlait tantôt d'aliments sains, mais c'est les ressources économiques, les ressources des quartiers moins sécuritaires, donc plus de stress. Ce qu'on constate, c'est que c'est des cumuls de stress. Puis c'est comme si tu n'étais pas malade, les conditions de vie vont faire en sorte que tu vas l'être. Donc, il y a comme un... Puis si tu es malade, bien, tu n'arrives pas à aller chercher les soins appropriés ou juste à prendre un break. De ton environnement, tu sais, dans le sens que l'environnement reste bruyant, tu peux pas dire je vais prendre mon auto puis je vais aller au chalet en fin de semaine. Donc il y a comme cette réalité là de cumul. Par contre, comment on change ça? Je pense qu'il faut être sensible à ça, puis à un moment donné il faut adopter un discours qui est différent, qui est sensible, puis il faut aller dans... Mais c'est pas moi qui va faire ça là. C'est vraiment la prise en charge par les communautés, pour les communautés, avec les communautés. Fait que là il y a comme un mouvement qu'on peut aider. Mais il faut que ça se fasse à l'intérieur de la communauté. Puis ça, là-dessus, Mélanie, là, je te repasse le ballon parce que ça fait partie de la façon dont on travaille. Là.
Mais tu sais, dans les communautés du Nord, par exemple, là, l'enjeu des contaminants, on retrouve des contaminants élevés dans certains aliments qui sont consommés au quotidien. Mais en même temps, de ne pas manger ces aliments-là, d'un autre côté, c'est inacceptable. Fait que juste pour revenir à l'argument de quoi faire, oui. Bien... Moi, ce qui m'allume, c'est de travailler à l'échelle internationale. Parce que de faire reposer le fardeau du changement sur les personnes, alors que, par exemple, les contaminants, pour prendre un exemple, les composés perfluorés. On ne sait même pas dans quelle bien-consommation...
Qu'est-ce que c'est
ça, les composés? Ah, c'est vrai. Les composés perfluorés, c'est dans la famille des fameux téflons.
Okay.
C'est des produits qui repoussent la graisse et qui repoussent l'eau.
Oui.
De ce temps-ci, avec des collègues inuits, on travaille à l'échelle internationale pour les faire bannir. Parce que ces contaminants-là, on les retrouve dans la famille du cortex, entre autres. Il y en a dans plusieurs biens de consommation. Mais l'enjeu, c'est que ces contaminants-là migrent en Arctique, puis ensuite s'accumulent dans la faune sur place. Donc, c'est vraiment difficile de savoir on les retrouve dans quoi exactement, dans quels animaux, dans quelle partie de l'alimentation de nos biens de consommation. Donc, de faire reposer le fardeau du changement sur les individus, c'est très difficile parce qu'on n'arrive même pas à savoir, on les retrouve où.
Mm-hmm.
Donc, pour moi, c'est ça qui est important de rappeler, c'est qu'il faut agir à l'échelle internationale. Il faut agir avec des conventions, que ce soit pour le climat ou les contaminants, parce que faire reposer... Tu sais, les gens les plus vulnérables ne sont pas les personnes qui ont les moyens dans leur environnement immédiat pour poser des gestes. Puis, ils ont surtout besoin de soutien, donc, ouais.
Est-ce qu'une intervention comme la tournée mondiale que Greta Thunberg, c'est comme ça hein, qu'on la prononce, il me semble, j'ai entendu mille façons de prononcer son nom de famille, là. Est-ce que ça a réellement un impact? Ça a été ultra médiatisé. Il y a des gens qui se sont déplacés pour aller des manifestations monstres, là, on s'entend, là. Mais dans le concret de la suite, est-ce qu'il y a vraiment un impact à ce genre de mobilisation-là?
Par exemple, moi, la rencontre internationale que j'ai participée dernièrement, apparemment que c'était la première fois qu'on réussissait à agir sur autant de contaminants d'un seul coup. C'est des délégués de plein de pays, mais cette fois-ci, au lieu d'en accepter seulement un ou deux, il y en a cinq qui ont passé. Est-ce qu'on fait face à un éveil de nos dirigeants, un éveil de nos familles? J'ai espoir. J'essaie d'avoir espoir. Je pense que les gens sont de plus en plus conscients, puis nos jeunes, surtout, sont vraiment conscients de l'urgence climatique, entre autres. Fait que,
ouais. Moi, je vis d'espoir. je veux dire,
c'est bien.
C'est sûr que... En fait, c'est pas moi qui le disais, c'est Barack Obama. Il dit « L'histoire est faite de recul, mais on finit toujours par avancer. » Je suis pas sûre que c'est ses mots exacts, mais moi, j'ai le don de paraphraser. Mais je pense que... Moi, j'ai vu des gains. Quand on parle de contaminants, la contamination environnementale mesurée, puis au Canada, en Europe et aux États-Unis, depuis les années 60, elle a diminué. On a augmenté le nombre de produits, on augmente la production, on augmente le nombre de contaminants potentiels, mais les sols, puis là, c'est pas valide pour le Nord, là, pour plein d'autres raisons, mais les sols sont moins contaminés, la qualité de l'air s'est améliorée, on n'a plus de plomb dans notre essence. Ça, c'est un exemple. Depuis 60 ans, la santé environnementale a fait des gains important. On a décontaminé des lieux. On a travaillé sur de la réglementation de plus en plus sévère, de plus en plus contraignante. et l'industrie, les gouvernements ont suivi. Donc, on peut réussir à changer le monde. Maintenant, on a un méchant défi, puis là, on est sur le break. Fait que là, puis là, je m'excuse de l'anglicisme, mais la question, c'est comment on peut pousser pour continuer à changer le monde. Mm-hmm. On sait qu'on est capable. Il y a des recettes qui fonctionnent. Mélanie en a une. T'sais, on y arrive à bannir des produits. On a changé. T'sais, certains, ça ne va pas vite. On produit 5000 nouveaux produits chimiques par année. Je veux dire, de ce nombre-là, combien vont être dangereux pour la santé? Mm-hmm. On ne sait pas. Ça va plus vite, des fois, que la science. Mais on arrive à changer les choses, puis il faut garder espoir. Moi, je trouve que la qualité de l'air, c'est le plus bel exemple. Le plomb, c'est un bel exemple aussi. On a changé des choses. Puis maintenant, on a une génération qui dit, « Hey, moi, on veut une planète dans 50 ans. » Là, c'est beau, là, mais nous, on veut un futur. Puis c'est une génération qui n'est pas juste axée sur son futur, qui est en relation avec l'écologie, avec la nature, avec la... Tu sais, puis ils sont... on le sait, 25 % des jeunes sont angoissés par la qualité de l'environnement, mais ça, c'est une force de mobilisation. Tu sais, puis je pense, en tout cas, moi, je suis optimiste. Ça ne va pas faire de bien, là. On ne va pas trouver ça facile. Là. La journée où on perd nos acquis, on va peut-être grommeler un peu, mais je pense que ça va se faire.
Est-ce qu'on peut avoir, on parle d'éco-anxiété, là, avec l'espèce de, justement, l'angoisse et tout ça. Pensez-vous, vous n'êtes peut-être pas les bonnes personnes à qui poser la question, pensez-vous qu'on va trop loin, des fois, dans notre éco-anxiété?
Bien, je vais prendre les mots de Claudelle Pétrin-Desrosiers dans un événement qu'on a fait avec elle il y a quelques semaines dans le cadre d'une campagne Climat Santé Action. Claudelle, elle a soulevé, on lui a justement posé la question, Claudelle, comment est-ce que tu as interagi avec des parents, des patients qui expriment de l'éco-anxiété? Bien, elle dit, peut-être que le problème, c'est de ne pas en exprimer, dans le sens que peut-être que de ne pas être conscient que les enjeux environnementaux, il y a une urgence face à ça. Bien, peut-être que c'est notre devoir d'allumer des étincelles chez nos collègues, nos amis, nos familles pour dire il est temps qu'on prenne un virage à 180.
J'ai l'impression qu'avant l'arrivée de la pandémie, on était vraiment bien parti. Pour être dans le milieu des médias, on ne parlait que de ça. L'environnement, c'était l'enjeu premier de la planète. La pandémie est arrivée, bing! Des sacs de plastique partout. Tu sais, là, ça, c'est le... Ouais, les masques, ben oui, les masques, ça, c'est le meilleur exemple, assurément. Comment avez-vous vécu ça? Parce que je pense qu'on a pris un certain recul par rapport à où est-ce qu'on en était en 2019, là, avant l'arrivée de la pandémie.
J'y voyage beaucoup moins.
Ah, oui!
Donc, tu pollues moins.
Donc, je pollue moins.
Non, mais c'est bien, c'est une très bonne réponse.
Bien, moi, je pense que ça montre les défis auxquels on va faire face. Hein? À la fois la solidarité, parce qu'il y a eu des beaux élans de solidarité, il y a eu un certain conformisme aussi de la société est prête à faire des sacrifices. On l'a vu, là, on n'est pas, quand les 6 premières semaines, on n'est pas monté aux barricades. Là, on monte aux barricades 2 ans plus tard, mais il y a quand même eu, encore là, moi, je suis une optimiste, là, je suis une anxieuse, mais optimiste. mais je pense qu'il y a eu des beaux gestes de solidarité, il y a eu la prise en charge globale, on a pris conscience de notre vulnérabilité. Et moi, je pense qu'une fois qu'on aura passé par-dessus la fatigue pandémique, on va revenir à cette vulnérabilité-là, puis on va générer des changements. Je fais vraiment partie de ceux qui pensent que ça va avoir mobilisé les consciences, puis ça va nous amener vers autre chose. Puis Mélanie, veux-tu ajouter quelque chose là-dessus?
Bien, je dirais que pour travailler dans le système alimentaire, on s'est aussi réveillé sur l'importance de l'alimentation locale.
Oui.
De soutenir nos producteurs locaux, de se faire un projet collectif d'autonomie alimentaire parce que les frontières se refermaient, mais aussi parce que l'autonomie alimentaire, c'est une façon de répondre au changement climatique. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une. Donc, avec un projet qu'on a qui s'appelle Manger notre Saint-Laurent, on a lancé une campagne d'information parce qu'on se dit il faut qu'on vienne en support aux pêcheries du Québec. Parce que présentement, les frontières se referment, donc pourquoi pas essayer de garder tous ces beaux produits-là chez nous? Donc, je pense que ça, c'est un bel... En tout cas, moi, j'habite en région, dans le Bas-Saint-Laurent, puis je dirais que c'est quelque chose... ça le vend dans les voiles. Fait que la pandémie n'a pas que du tort, disons, peut-être pour ça.
Si on fait une comparaison, justement, entre les régions un petit peu plus éloignées des grands centres, avez-vous vu une différence par rapport à notre façon de gérer, justement, notre environnement? Est-ce qu'il y a vraiment une comparaison à faire ou deux opposés à faire entre... parce que j'ai habité à Rimouski, dans le coin, pendant plusieurs années, puis j'ai l'impression qu'en ville, des fois, c'est différent sur certains points. Est-ce que c'est l'environnement qui fait en sorte que c'est différent ou, je sais pas, c'est les individus? Je me pose la question.
Ben moi, je me pose plus la question. 70 % de la population du Québec vit en ville. Donc, tu sais, c'est moi, je me... La médecine se pratique en ville.
Oui, c'est vrai.
C'est sûr que le rapport à la nature est différent. Là, j'ai travaillé à Alma, puis la première semaine d'octobre, il n'y a plus personne nulle part parce qu'ils sont tous à la chasse. Ou la dernière de septembre, là. Ça dépend là, de ce que tu chasses puis comment tu chasses. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont connectés avec la nature, mais comment puis de quelle façon, ça, je ne sais pas. Les grands espaces, c'est sûr que ce n'est pas le même rapport à l'espace. Puis au stress aussi, probablement, la vitesse, on le dit souvent, les besoins aussi, tu as moins de besoins en région. Donc, il y a probablement des leçons à suivre de cette vie-là, mais le fait est que la population mondiale est maintenant en ville. Fait qu'on va, même si, tu sais, on peut idéaliser la vie en région, mais les gens viennent en ville parce qu'il y a des ressources, parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a, tu sais, il y a des services. Puis moi, je me dis, une révolution dans le coin du 5e rang, il n'y en aura pas. Donc, c'est dans les villes que ça va se passer. Fait que les ressources, ils sont en ville. Fait que si on veut des changements, il faut passer par la ville. Alors,
parce qu'il y en a beaucoup avec la pandémie puis le fait qu'on puisse travailler d'un peu partout, qui ont décidé de quitter la ville. Ben, pas beaucoup, mais il y a certaines personnes qui ont fait le choix, qui ont fait le saut de s'en aller.
C'est sûr qu'on a plus en plus d'arrivants dans la région du Kamouraska.
Sans doute. Hein?
Depuis la pandémie, absolument. Moi, je suis pas d'accord avec Isabelle. Je pense qu'on peut faire la révolution en région aussi. Dans le sens que... Ce qu'on est privilégié durant cette période d'isolement avec la COVID, c'est l'accès à la nature.
Mmh.
Moi, je peux traverser la 132, aller prendre une marche sur le bord de l'eau.
Au coucher
du soleil,
en claquant
des doigts. Oui, oui, coucher de soleil le matin, ils ventent pas.
Non, non, c'est ça. Mais c'est parce mais... qu'à Kamouraska, les couchers de soleil sont...
Mais je pense que, tu sais, dans l'aspect de la santé mentale, la connexion avec la nature... on est privilégié pour ça. Puis malheureusement, dans nos contextes de ville, tu sais, si on prend l'exemple de la basse ville de Québec, où mon copain habite, ben coudon, il y a pas tant d'arbres. Il y a le parc Victoria, tu sais, le parc de la rivière Saint-Charles qui sont vraiment super. Mais c'est ça, l'accès à la nature, l'accès à la faune aussi. Là. Moi, j'ai des oies qui passent à chaque printemps ou à chaque automne. Donc, ouais, l'accès à la nature, je pense. Puis la possibilité d'avoir un méga jardin. Il grandit trop chaque année, mais ça permet d'avoir l'espace pour cultiver aussi. Là. L'accès aux producteurs aussi. Ça, c'est le fun parce que j'ai plusieurs amis qui ont des petites productions.
Ben oui.
Des membres de ma famille qui produisent des aliments de chez nous. Ça, c'est le fun aussi.
Je suis une nouvelle maman et je me questionne à savoir dans 50 ans, lorsqu'elle aura 50 ans, dans... ton monde d'espoir ou peu importe, on s'attend à vivre de quelle façon ou dans quel type d'environnement? Dans 50 ans, en 2072.
C'est ça.
Mon calcul est bon.
C'est toute qu'une question, qu'on se pose. Mais je pense que c'est tout notre rapport à l'énergie qui va avoir changé. Puis je pense que nos systèmes économiques vont avoir changé aussi. Parce que le système de la croissance infinie, visiblement, dans un vaisseau planétaire... Puis ça, c'est pas moi qui l'ai dit, là, c'est dit depuis, c'est Boulder, je pense, depuis 1960. Donc, je pense qu'on va revoir notre rapport à la planète. Donc, les énergies fossiles, bon, on prédisait la fin des énergies fossiles en 2025, puis visiblement, on y est pas, je sais pas. On sait qu'on a pour 200 ans de charbon, puis il y a encore beaucoup d'énergies fossiles, mais je pense que ce rapport aux énergies fossiles va changer. Mm-hmm. Ça, c'est clair, ce qui est une très bonne chose pour la qualité de l'air. Les changements climatiques vont continuer, là, on ne les arrêtera pas, mais au moins la qualité de l'air, ça va être formidable. Donc ça, c'est mon côté optimiste. Puis les systèmes économiques aussi, je pense que le local, retourner à cette vie ancrée sur la proximité, à la fois dans les villes, parce que les villes vont devoir se verdir. Puis on le voit, là, des grandes villes comme Paris, Londres se verdissent. Là, moi, j'ai vécu à Paris à l'âge de 15 ans, puis je m'ennuyais de voir des arbres. Là. Je veux dire, j'étais très, très malheureuse. Un, c'est des grands buildings. Tu vois 3 pouces de soleil, puis tu n'as pas le droit d'aller marcher sur l'herbe. C'était horrible, Paris. Là. Puis maintenant, c'est verdi, tu sais, c'est vert. Il y a des parcs partout. Tu peux marcher partout. Tu peux faire cultiver tes légumes sur le coin de ton trottoir. Je ne suis pas sûre de la qualité des légumes, mais tu peux. Donc, je pense qu'on va aller vers quelque chose de plus vert aussi. On n'aura pas le choix. Donc, des économies plus locales. Moi, ça, c'est ma prédiction, mais je ne suis pas une experte de la... la tu sais, puis c'est comme je dis, ça ne se fera pas facilement parce qu'il y a des sacrifices à faire. Toi, Mélanie, ton futur?
Je rêve d'industrie et d'économie solidaire de leur population. Présentement, on dirait que quand on veut amener des changements dans nos systèmes alimentaires ou même par rapport aux contaminants, rapidement, les intérêts de l'industrie apparaissent dans les discussions. Au sein aussi de nos gouvernements, pour différentes raisons, on leur a laissé prendre la place dans nos processus décisionnels. Donc, je rêve qu'on revoie nos modèles pour, sans les traiter de méchants, c'est vraiment pas ça, mais plutôt de dire, est-ce qu'on peut imaginer le futur ensemble et non seulement pour le bénéfice de quelques individus? Moi, je rêve fort, hein?
Mais j'adore ça. Cette question-là servait exactement à ça. Puis je trouve que ça conclut très, très bien le balado, sans oublier la dernière question qu'on pose à tous nos intervenants, puisque le balado s'intitule « Santé sans rendez-vous ». Avec qui prendriez-vous rendez-vous dans la vie? Une personne vivante ou non, un personnage fictif, un personnage réel, avec qui voudriez-vous prendre rendez-vous?
Ben moi, je le sais, c'est Angela Merkel.
Ah oui?
Ouais. Ben en fait, au-delà, quand on parle d'environnement puis qu'on parle d'écologie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de rapports de pouvoir. Quand on disait au bénéfice de quelques personnes, je pense qu'il y a beaucoup de rapports de pouvoir toxiques dans nos sociétés, puis je pense que ça contribue en partie à la crise climatique. Et la question des rapports hommes-femmes, elle est fondamentale. Et là, on a une scientifique de formation qui a, c'est 16 ans au pouvoir de l'Allemagne, quand même une super puissance, post-effondrement du mur de Berlin, une société qui était démantelée de plein de façons en crise sociale quasiment perpétuelle, puis qui a rebâti une Allemagne tout en étant une femme. Puis moi, je prétends que la politique n'est pas fine avec les femmes, puis que le droit à l'erreur, mais aussi le droit à la personnalité n'est absolument pas toléré. Et donc, cette femme-là a pu trouver sa place de façon formidable. C'est elle qui s'est retirée de la politique, là. C'est, dans un gouvernement minoritaire, là. Elle avait tout contre elle et a réussi à... Alors, moi, j'aimerais... Bien, il faudrait que j'apprenne l'allemand ou qu'elle apprenne le français, mais une belle conversation sur son rapport à l'autre, sur son rapport... C'est parce qu'elle a passé des politiques sociales alors qu'elle avait des gouvernements qui n'étaient pas très socialistes avec elle. Donc, comment elle a trouvé des voies de passage? Puis ça, moi, ça me semble que c'est inspirant. Ouais. C'est loin de l'environnement, mais c'est inspirant.
On vit d'espoir. Mélanie?
Moi, je veux juste aller sur un bateau de pêche avec un pêcheur.
Wow!
C'est des personnes que j'aime beaucoup. C'est des grands connaisseurs de la mer. Moi, j'ai eu le privilège avec des collègues Inuits ou des îles de la Madeleine ou du Bas-Saint-Laurent d'embarquer sur un bateau de pêche ou même partir en kayak avec un pêcheur, tiens.
Wow!
Pour qu'il me raconte qu'est-ce qu'il sait. Je pense que j'ai tout à apprendre. Là.
Moi, je leur ai enlevé des hameçons dans le pouce quand je faisais un stage aux îles de la Madeleine.
Ah, ça, c'est drôle.
Ça fait pas du bien, par exemple. Mais ah, non, je sais pas. Les pêcheurs. Ouais.
Non, c'est vrai que c'est du bon.
C'est des gens d'une grande générosité. C'est des gens d'une...
Simple.
Connectés, mais aussi qui se battent parfois contre un système qui n'est pas facile. Il y a des pêcheurs qui veulent amener des changements dans le système actuel ou des agriculteurs. Colin, qui l'ont rough. Donc, je pense que... j'ai envie de passer l'après-midi avec eux autres.
Mélanie Lemire, merci beaucoup. Isabelle Goupil-Sormani, ce fut un plaisir de vous recevoir, mesdames, pour cet autre épisode du balado Santé sans rendez-vous.